Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
C'est parti les amis, RTL vous régale comme tous les samedis, 10h15, 11h30. Soyez les bienvenus dans ce que la France a de plus beau, dans ce que la France a de meilleur. Alors ce matin, direction la Nièvre pour plonger dans l'un des poumons verts du pays. Un désert couvert de forêts aux allures écossaises. Bienvenue dans le Morvan, cette terre de tradition et de légende. Ce Morvan qui produit la majorité de nos sapins de Noël, dont celui de l'Élysée. Et à ce propos, on vous expliquera dans un instant le lien très fort qui unissait François Mitterrand à cette région dont il n'était absolument pas originaire. Ce Morvan qui a aussi donné naissance à la première femme ayant fait le tour du monde. Nous vous raconterons l'incroyable histoire d'une certaine Jeanne Barret. Alors entre Crapio, Cramayotte et galette aux griottes, laissez-moi vous présenter les deux guerriers du goût qui mènent campagne avec moi tous les samedis. À ma gauche, une romaine, une vraie. À ma droite, un gaulois, vite fait. Nous rappelons qu'Autun, dans le Morvan, fut une des anciennes capitales de la Gaule. C'est donc paré de sa plus belle toge qu'elle fera son entrée dans l'arène du défi frigo tout à l'heure dès 11h. Le pouce vers le bas, elle tentera d'exécuter son adversaire à l'aide d'un ingrédient de votre frigo. Mesdames et messieurs, Louana Belmondo.
Bonjour Jean-Michel, bonjour Jean-Sébastien, bonjour tout le monde.
Je suis ravi de vous retrouver Louana.
Moi
face
aussi.
Face à elle, le Spartacus de l'andouillette. Le Vercingétorix du rond de serviette. Si cet homme doit mourir, ce sera à table. Voici Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bon appétit à tous.
Mesdames et messieurs, ceux qui vont se nourrir vous saluent. Et si vous voulez arbitrer le combat, appelez vite le 3210 ou envoyez le mot régal au 64-900 pour gagner ce matin. C'est un très beau cadeau, le Coke Expert de Magimix. La France entière en rêve, nous allons vous l'offrir. Et puis dans l'arène d'RTL vous régale ce matin, il y aura Oshi.
Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime, comment revêtir le ciel ?
Ajoutez-y un des gladiateurs de The Voice.
Suivi mon
le premier extrait du nouvel album de Florent Pagny qui sera de la partie également ce matin. RTL vous régale dans le Morvan. C'est un peu voyage au centre de la France jusqu'à 11h30.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix et petite manie, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile de ton toit. Le vent de la nuit froide me renvoie à la balade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une vague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Mais je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue,
petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Mais je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour.
L'homme d'Astafor, Francis Cabrel, Petite Marie, Francis Cabrel qui va enfin retrouver la scène avec ses musiciens puisqu'il jouera avec RTL à Agen du 9 au 13 juin prochain, puis aux Folies Bergères de Paris du 16 au 23 juin. Tout cela évidemment dans le respect des dispositifs sanitaires mis en place. Et puis retrouver Francis en live avec son groupe en avant-première, c'est dans le grand studio RTL samedi, ce samedi, tout à l'heure donc à 14h30, à quelques jours de ses premiers concerts. Le grand studio RTL, Derek Jean-Jean. Tout à l'heure, on vous emmène dans le Morvan. C'est RTL vous régale jusqu'à 11h30.
RTL vous régale. RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale dans le Morvan ce matin. Et les amis, le Morvan, c'est étonnant.
Ah bon ?
Alors, on le sait pas forcément, on le sait pas forcément. Mais avant de devenir président de la République, François Mitterrand a quand même été maire de Château-Chinon pendant 22 ans.
Alors vous le savez pas forcément parce que vous êtes belge.
Je vous en prie.
Et moi, italienne.
En, voilà, en France, voilà. On s'en souvient quand même un petit peu, pour les gens qui ont plus de 40 ans. Mais c'est vrai que, bien que Charentais, François Mitterrand était viscéralement attaché à cette terre du Morvan, tellement qu'il a envisagé de se faire enterrer au sommet du Mont Beuvray, au lieu de l'histoire gauloise, là où Vercingétorix fut élu chef des Celtes face à l'envahisseur romain. Et le président, dans les derniers jours de son mandat, a acheté une parcelle de terre sur le Mont Beuvray, au cœur du parc régional du Morvan, avant d'être inhumé dans un lieu ailleurs, puisqu'il est à Jarnac. Mais en attendant, il voulait absolument reposer dans l'emplacement de l'ancienne Bibracte, la capitale du peuple éduin, un lieu mystique où les légendes gauloises affleurent, avec notamment cette légende de la Vouivre, le grand serpent de l'énergie tellurique. On sait combien le président Mitterrand était mystique au-delà de ce qu'on pouvait envisager.
Luana, il n'y a aucun rapport, mais le sapin de Noël de l'Élysée vient quand même du Morvan.
Eh oui, le Morvan est le principal producteur des sapins de Noël en France. On y trouve, entre autres, le célèbre Normand, le sapin préféré des Français.
C'est Gérard en fait, voilà. le sapin de Noël de Luana.
C'est le Normand. Dans le Morvan.
Et c'est vrai que depuis plus de 10 ans, c'est ce sapin qui est installé dans la cour d'honneur de l'Élysée à chaque Noël.
Alors c'est rien de dire que les forêts sont nombreuses dans le Morvan. Le bois de la région chauffait Paris au XVIe siècle.
Et oui, dès le XVIe siècle, avant d'être le sapin de Noël de l'Élysée, les arbres des forêts du Morvan étaient coupés, les grumes jetées dans l'eau. Elles flottaient jusqu'à Clamcy où elles étaient assemblées en grands radeaux. On appelait ça des trains de bois. Et pendant 15 jours, les flotteurs de bois, c'était un métier, étaient debout sur ces trains flottants, les guidaient jusqu'au quai de Seine. Et une fois sec, ce bois servait de bois de chauffage.
Je le disais en lançant l'émission, le Morvan a aussi donné naissance à la première femme ayant fait le tour du monde.
C'est une histoire assez incroyable que celle de Jeanne Barré. Elle est née en 1740. Elle entre au service d'un médecin de Toulon sur Aroux qui fut choisi pour partir avec la mission Bougainville. Le médecin imposa Jeanne Barré en la faisant passer pour un garçon. et le médecin décéda sur l'île de France, La Réunion.
Et Jeanne Barry fut donc débarquée. Elle épousa un militaire et rentra avec lui à la fin de son engagement. Au retour, elle s'effaça modestement et malheureusement, elle n'a jamais livré ses mémoires sur cette épopée complètement inouïe. Elle est la seule femme au milieu de deux équipages comptant plus de 300 hommes.
Ah, il y a un autre... Oui, Jean-Seb ?
Non, il y avait deux bateaux qui sont partis avec la mission Bougainville. Et ça, moi, je rêverais d'avoir les mémoires de Jeanne Barré.
Parce que l'aventure devait valoir la peine.
Incroyable. Ah,
vous imaginez, elle fait le tour du monde. Ils sont partis par l'Ouest, ils sont partis par les Amériques. Elle a passé le Cap Horn, c'est le Cap de Bonne-Espérance. Et on est en 1785.
Carrément, ouais. Il y a un autre personnage originaire du Morvan, un certain Sébastien le Prêtre, qui est quand même plus connu sous le nom de
Vauban.
Eh ben oui.
On connaît le génie des fortifications. Il connaissait parfaitement le Morvan, et notamment les problèmes des paysans de l'époque. Et il suggéra de faire payer l'impôt selon la richesse de la terre. Il a établi des plans d'irrigation pour un meilleur rendement de l'agriculture. Il appela à l'amélioration des races de bovins. Et en fait, Vauban n'avait que 150 ans d'avance, puisque tout cela fut mis en place au milieu du 19e siècle.
Exactement, c'est un peu le geek de l'époque, si vous voulez. La vielle fut l'un des instruments les plus répandus dans les campagnes du Morvan.
C'est très
produit, évidemment.
C'est vrai. Et dans toutes les noces étaient ambiancées par des joueurs des vielles, les DJ de l'époque. À la Révolution, cet instrument est devenu l'instrument des campagnes et la région Morvandelle devient un autre lieu de fabrication des vielles.
Et quand on entend la musique des DJ de l'époque, on se dit que ça devait être une teuf.
Oh, moi, j'aurais bien dansé là-dessus.
Ouais, j'imagine. Car vous êtes aussi chorégraphe, on ne le dit pas.
Absolument.
Assez. Les amis, Autun fut une grande ville gallo-romaine. Et le jeune Bonaparte fréquenta le collège d'Autun pendant quelques mois. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on a exploité ici du pétrole, carrément, Jean-Seb.
Oui, il y a deux terrils qui sont à l'entrée d'Autun. Et il rappelle qu'on a exploité les deux plus grandes mines françaises de schiste bitumineux. Imaginez, l'histoire commence en 1813. On remontait des schistes dont on a réussi à extraire une huile proche du pétrole à partir de 1837. 10 ans avant les premiers forages à Bakou. 20 ans avant le premier puits de pétrole américain. Le problème, c'est que tout cela ne fut jamais rentable. Donc l'aventure s'est achevée en 1957. Et de cela, il reste une friche industrielle qui a donné naissance sur ces deux terrils qu'on appelle les télos à une petite forêt primaire qui est tout à fait mignonne et qui est un but de balade absolument génial.
Oui, la naissance d'une flore particulière a entraîné l'arrivée d'une faune aussi. On a recensé près de 250 espèces de papillons, aussi bien de nuit de jour, mais aussi des jolies libellules. C'est ensuite vraiment surprenant et poétique, où on peut se promener en toute liberté et surtout légèreté.
Et puisqu'on parle de poésie, est-ce que vous en connaissez un bout sur le patois morvandiau?
Alors, c'est
qu'on parle encore aujourd'hui. Hein.
Ah oui, on va parler dans cette émission de truffes.
Mmh. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une truffe? C'est une
de cornard.
C'est une.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
La truffe, c'est la patate, la pomme de terre. Et le cornard, c'est un cornichon.
Mais c'est vrai qu'il y a encore un vrai patois dans le Morvan qui est utilisé. Ça fait partie des patois. Ouais. Des
patois. Quand vous êtes face à un bocal de cornichons, vous avez une belle bande de cornards.
Voilà.
Bon, les amis, cette fois-ci, c'est la bonne. L'origine du défi frigo remonte bien à la période gauloise, c'est officiel. On l'appelait le défi chaudron, d'ailleurs, à l'époque. Et attendez, parce que ça pique. Hein. Faites très attention, parce que j'ai traduit les noms pour que ce soit très compréhensible. Louanus. Bah oui, Louanus. Belmondus.
Oui, c'est bien.
La plus belle des Romaines avait sans doute toujours les ingrédients étonnants dans son chaudron. Son voisin, le Gaulois Petit de Mangix, rêvait devant les secrets culinaires de Louanus. Je m'y ferai jamais. Elle lui lança « Je te donne mon parmesan et je te mets au défi de créer une recette meilleure que la mienne. » Et c'est comme ça que l'aventure a commencé entre Louanus et Demangix. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo, ils auront 1 minute 30 pour en faire une recette. Faut qu'on arrête la serroise.
Et vous êtes Jean-Michel Lutz?
C'est un petit peu ça. Vous allez jouer pour le cook expert de Magimix. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Vous avez toute la durée de l'émission, donc jusqu'à 11h30 pour nous appeler au 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal, suivi de votre message au 64 900. Magimix, c'est pas un Gaulois célèbre, ça?
Eh ben, c'est, ça va bien avec Petit de Mangix.
Je vous le dis.
Eh oui.
Allez, à tout de suite pour la balade gourmande dans le Morvan ce matin.
Il est régal. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et je le disais en démarrant cette émission, on vous emmène dans le Morvan, ce désert couvert de forêts, ce paradis vert qu'on compare un peu à l'Écosse, Jean-Sébastien.
Oui, et puis c'est une terre de tradition, une terre de légende où le sorcier voisine avec le médecin. C'est une terre qui a été dépiautée au moment du découpage départemental de 1790. Peut-être craignait-on le dicton « il ne vient du Morvan, ni bon vent, ni bonnes gens ». Mais en attendant, cette terre est magnifique. C'est une île de granit. Unique. Il y a le vert des forêts, le bleu des lacs, vous avez une identité forte des Morvandiaux, et puis il y a ce goût, car presque partout on peut s'arrêter, on peut goûter à des beaux produits d'exception qui sont de belle qualité, ne serait-ce qu'une pomme de terre sous la cendre. Là-bas, elle n'a pas le même goût. Et dans le Morvan, vous avez une ville que j'aime énormément qui s'appelle Autun. C'est une ville où les époques se bousculent. Les Romains en ont fait une capitale de la Gaule parce qu'aux alentours, les champs, les prairies, les cours d'eau en faisaient une terre fertile. Augustodunum fut la vitrine de Rome avec ses 6 kilomètres de remparts. Il en subsiste quand même la moitié. 4 portes monumentales, un immense théâtre qui pouvait accueillir 20 000 personnes, histoire d'humilier la Gauloise Bibracte qui était à côté. L'autre trésor d'Autun, c'est la cathédrale Saint-Lazare, avec sa flèche gothique. On ne voit qu'elle. Et les romanes, pourtant sa construction commence au XIIe, c'est le chef-d'œuvre absolu, c'est son tympan sur la façade. On la doit à un certain Gislebertus. Tout n'est qu'harmonie et beauté. Les corps sculptés sont parfaits et tout nous est parvenu, car un peu avant la Révolution, les chanoines eurent la belle prémonition de faire recouvrir tout cela par du plâtre. Ils trouvaient ça un peu choquant. Et puis, tout cela a été redécouvert par hasard en 1837. Alors c'est vrai que certaines scènes sont un peu osées. Il y a par exemple une femme qui représente la luxure, qui se fait dévorer les seins par des serpents. Comprend pourquoi les moines avaient été choqués.
On savait rire à l'époque.
et autour de la cathédrale, on se balade dans une ambiance hors du temps, au milieu des maisons des 14e, 15e. Ça fait partie des endroits hautains qu'il faut aller voir quand on est en Bourgogne. Et puis bien sûr, l'histoire de Bonaparte qui a fréquenté le collège de la cité avant de revenir en tant qu'empereur, dormir à l'hôtel de la Poste. La chambre de Bonaparte d'ailleurs fait l'objet d'une belle polémique parce qu'elle est en ruine.
On parle un peu de cuisine, Louana. Je rappelle que cette émission s'appelle RTL vous régale.
Et on se régale, vous savez, dans le Morvan, car c'est une cuisine qui me parle, c'est une cuisine simple, généreuse, faite à partir des produits de qualité de la région. Un peu comme en Italie, vous savez, quand on est reçu dans une famille de la région, attendez-vous à un repas morvandiaux bien copieux. Vous savez bien quand vous allez vous asseoir à table, mais jamais à quel moment vous allez vous lever. Tout d'abord, on va commencer par trinquer. Alors, on trinque pas avec un vin du Morvan parce qu'en fait, le climat, il est un peu rude. Ouais. Hein, il ne se prête pas vraiment à la culture de la vigne. On passe pour plutôt sur un vin de Livonne.
De Lyon.
De Lyon, ouais.
Oui, on va sur un Vézelay.
Après, on va forcément commencer avec un plateau de charcuterie. Rosette, jambon, fromage des têtes, même des terrines, des volailles, elles sont très bonnes. Vous n'échapperez absolument pas à un bon rôti de viande rouge accompagné d'un crapieux du Morvan. Alors ça, j'adore. Ce sont des délicieuses petites crêpes assez épaisses. Vous pouvez aussi avoir la version sucrée avec des pommes, hein, pommes frites, bien sûr. Elles sont faites à base des pommes de terre cuite et réduite en purée, auquel on rajoute des œufs battus, un peu de farine, du persil, des échalotes ciselées, du fromage blanc. On forme des galettes, mouillez-vous les mains si vous les faites à la maison. On les fait cuire soit dans du sandou, soit dans du beurre. Elles sont croquantes et moelleuses. On accompagne le tout d'une belle salade du jardin avec des pissenlits et des herbes aromatiques. Avant le dessert, un petit plateau de fromage, bien sûr. Puis des tartes, en général, selon la saison, pommes ou prunes ou prunelles sauvages, elles sont très bonnes aussi. Ma préférée reste quand même la tarte à la sémoule. Après, attention, c'est pas le moment de partir, Jean-Michel. Hein. Non, non, on prend le café et il y a le petit coup de gnoul.
Ah bah oui, évidemment.
Ben oui, c'est une eau de vie maison qui débouche bien, donc ça sert à faire digérer car elle est assez forte, elle est réalisée à partir des produits du verger. Et maintenant, Jean-Michel, Jean-Sébastien, on remercie pour l'accueil.
Toujours.
On part soit marcher, soit faire la sieste. Moi je vais marcher, vous, vous allez faire quoi?
La fiesta. Et voilà.
Je vais pas la siesta. La siesta.
Pas la, non, pas la siesta, la fiesta. Faites-nous confiance. Voilà, c'est l'esprit d'RTL vous régale. On va vous expliquer ce qu'on rapporte évidemment du Morvan d'ici quelques instants. Le temps d'un des titres d'Oshi sur RTL et même après, je t'aimerai.
Tu sais, la vie ne vaut rien. Tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon âme. Puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma. Tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurais le médecin. Je t'offrirais mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte.
Et même après, je t'aimerai. Oshi sur RTL. Dans un instant, la balade gourmande se prolonge avec les essentiels, les produits que nous allons vous rapporter du Morvan. Quelques conseils. On parle beaux produits et artisanat dans un instant sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, il est 10h42, nous sommes en direct sur RTL. Comme tous les samedis matins, RTL vous régale. C'est l'heure des emplettes. Luana, Jean-Sébastien, nous sommes dans le Morvan. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du jambon, du jambon, jambon du Morvan.
Eh oui.
Vous savez qu'il a failli ne pas sortir des oubliettes dans lesquelles il était tombé depuis plusieurs années. Ça va, au 18e et au 19e, le cochon, c'était une vraie richesse hein, dans les fermes morvandelles. Mmh. Comme à l'époque, les animaux sont élevés en plein air, sur des terrains escarpés, nourris de produits locaux, les morceaux de choix que sont les jambons étaient mis au saloir avec des aromates, tout ça pendant 40 jours, et ensuite, ils étaient rincés pour les dessaler.
Et il est mis dans des sacs d'étoiles dans lesquels il va sécher dans un endroit frais et bien aéré pendant entre 5 et 6 mois. Le jambon du Morvan est particulièrement moelleux avec des arômes riches et subtils. Plus le jambon est affiné, il faut dire, plus le goût va être affirmé et intense.
Carrément. Et dans la région, Clamecy va nous offrir des andouillettes absolument remarquables.
L'andouillette de là-bas date du XVIe siècle. Alors, on l'a fait avec du bœuf, du porc et du veau, en fonction des recettes. Donc, on met plus ou moins de l'un ou de l'autre. Celle de Clamecy est élaborée, elle, essentiellement à base de porc et de fraises de veau. Elle date du XIXe. Le Larousse de la cuisine des terroirs rapporte que la mère Chapuis, qui cuisinière à l'auberge de la Croix, à Clamecy, préparait des andouillettes dont la réputation dépassait les limites de la commune. Et à sa mort en 1850, les charcutiers reprirent la recette. L'un d'eux est monté à Paris, s'est installé à côté des Halles, et là, l'andouillette de Clamecy a gagné Paris.
Alors, le mieux, c'est de la goûter sur place. Mon père en a rapporté pour la cuire à la poêle, au grill, au barbecue s'il fait beau, au four ou avec du vin blanc ou en papillote avec de la moutarde. Les charcuteries du Morvan vous proposeront également des rosettes, les terrines, qu'elles sont délicieuses, des galantines et des fromages des têtes, mais vraiment à tomber.
Oh, l'ambiance. On peut pas faire l'impasse non plus sur le bœuf charolais, les copains.
C'est pas spécifique au Morvan, mais c'est une race identitaire de toute la région. On parle au 19e siècle de race charolaise nivernaise, c'est dire, et qui a gagné ses lettres de noblesse pendant l'exposition universelle de 1867.
Alors c'est une race, la charolaise, qui passe plus de la moitié de l'année au pré, à bruter paisiblement. C'est seulement vers la fin de novembre que les animaux sont rentrés à l'étable. Ils seront nourris à base de foin, d'herbes et des céréales. Grâce à cette alimentation, les éleveurs obtiennent une qualité de viande pas trop grasse, mais bien persillée, savoureuse et pleine d'arômes. Elle est vraiment délicieuse.
Dans la série des produits étonnants, il y a un truc merveilleux, c'est la cramaillotte, c'est une confiture.
C'est une spécialité originaire de Carré-les-Tombes. C'est une gelée de fleurs de pissenlit. Ces fleurs de pissenlit se consomment. Alors, les feuilles, évidemment, on les consomme en salade un peu partout en France, mais à Carré-les-Tombes, on en a fait une gelée avec les fleurs. Les fleurs qu'on cuit avec des oranges et des citrons coupés en dés, et puis on filtre le tout, on recuit la préparation avec du sucre pour obtenir cette gelée qui a un goût très particulier, très subtil.
Dans la série des autres spécialités, il y a la galette aux griottes, je vous en parlais. On parle aussi de griottes au lardon, de brioches aux griottes.
Ça, c'est la grande famille des brioches salées. Elle est en forme de couronne moelleuse au goût de lard. Parce que comme tout est bon dans le cochon, eh ben dans le Morvan, on en a fait des brioches. Avec les restes de lard fondu récupérés après avoir fait des gratons. Et donc, on remplaçait le beurre qui manquait par cette matière grasse et ça donnait aux brioches ce petit goût de lardon pas désagréable du tout.
Alors si on la mange tiède à l'apéritif, c'est super, mais aussi, on peut aussi la manger tout simplement accompagnée d'une salade. Et aujourd'hui, on ajoute souvent des gratins à la pâte, histoire de donner de la mâche et pour faire une brioche encore plus gourmande.
Luana, vos origines italiennes vous feront dire qu'évidemment les meilleures noisettes au monde viennent du Piémont. Cela dit, la noisette du Morvan, il y a match quand même.
Oui, il y a une petite jolie histoire. En fait, au 19e siècle, les paysans morvandiaux ne pouvaient pas s'offrir du café car il était trop coûteux. Donc, ils ont eu l'idée de torréfier les noisettes qui poussaient partout dans la région et les utiliser comme des graines de café pour obtenir presque la même boisson. Aujourd'hui, il y a une seule famille à Pugues-les-Eaux, je l'ai bien dit, qui torréfient des noisettes en France et ils font de la casette. Et un grand nombre des chefs étoilés l'utilisent en cuisine. Elle est commercialisée soit entière, soit en forme de poudre, d'huile, des pâtes crémeuses. Elle est vraiment très très bonne et très aromatique.
On n'a pas fini parce que si je vous dis saupiquet des amognes, châtaigne au lard, l'essentio, le flanc du garde-chasse, la gelée de nef, tout ça, c'est la cuisine du Morvan. On va vous prouver qu'elle est pleine de surprises et on accueille dans quelques instants Albine Novarino. Elle est écrivaine, elle est passionnée par le Morvan, on en parle avec elle dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire sur RTL. On vous souhaite un très bon début de week-end. On passe un merveilleux moment avec vous comme tous les samedis matins. A tout de suite.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais, notre invité dans RTL Royal ce matin est passionné par le Morvan. Elle a réuni dans un ouvrage les 100 recettes de la cuisine du Morvan. Bonjour Albine Novarino.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur bonjour. RTL.
Oui, je suis ravie.
Albine, vous connaissez la maxime habituelle, adieu vos vaches cochons. Ici dans le coin, c'est plutôt bonjour vos vaches cochons et adieu maillot de bain. C'est un peu l'ambiance quand même. Hein.
Oui, mais écoutez, je voudrais nuancer quand même. Hein,
parce non mais que je vous taquine, dire... je vous taquine.
Oui, oui, parce que quand même, il faut dire que quand même dans la cuisine du Morvan, il y a des choses qui étaient un petit peu privilégiées, les orties notamment. Hein, les ménagères, elles aimaient bien ramasser les orties dans des endroits où il y avait eu un peu de fer qu'on avait laissé à côté des fermes. Et elles faisaient des salades d'orties ou des soupes à l'ortie.
C'est bon ça.
Alors ça... Alors après la charcuterie, bah, je crois que c'était quand même un peu plus diététique, hein, faut le dire.
Non, mais je disais, je veux taquiner, mais c'est vrai que la cuisine du Morvan, c'est beaucoup d'autres choses. Simplement, c'est une cuisine qui, parfois, c'est vrai, faut être honnête, tient un petit peu au corps. Il y a des raisons à ça. C'est que le climat du Morvan est assez rude, qu'on est sur une terre assez pauvre, qui fait froid l'hiver là-bas quand même, faut être honnête. Mais que les gens qui habitent là-bas sont plutôt résistants. Et ça a donné une cuisine... qui leur ressemble. Oui, nourrissante, c'est ça.
C'est une cuisine nourrissante, c'est une cuisine roborative. Alors, je pense que les gens, historiquement, faisaient beaucoup d'efforts. Ils avaient froid. Alors, comme vous le disiez, parce que le climat était rude, mais ce qu'il faut savoir aussi, je pense, c'est qu'ils avaient froid à l'intérieur des maisons. Ça, on a tendance à l'oublier un petit peu. Hein. Nous avons le chauffage maintenant, Dieu merci. Mais autrefois, les gens, dans leur maison, bah, ils avaient quand même un petit peu froid. Donc... ils étaient bien contents de manger des choses un peu, nutritives, roboratives. Et puis, il faut pas oublier aussi que, historiquement, le Morvan, c'était le pays aussi des nourrices, les nourrices morvandelles. Donc, elles avaient à cœur de nourrir ce qu'on appelait les petits paris. Vous savez, les enfants qu'on leur confiait quand elles avaient des petits-enfants qui étaient soit des enfants abandonnés, soit des orphelins. Et il fallait que ces enfants, qui étaient souvent un petit peu chétifs, elles leur donnent de quoi se requinquer. Donc, elles leur faisaient...
Oui, elles leur faisaient, dites-moi.
Elles leur faisaient des plats tout à fait roboratifs, avec de la crème fraîche, avec du sucre. Elles leur faisaient des soupes, vous savez, ce qu'on appelait des soupes de maçon, c'est-à-dire qu'on mettait la cuillère dedans et la cuillère, elle tenait toute seule, quoi.
Je vois très bien. On pouvait replafonner des murs, tout ça, c'est pratique. On va être très précis et très honnête, parce qu'on donne un peu dans le cliché, là, on force le trait. Mais faut se souvenir que les gens mangeaient parfois plus de champignons que de viande dans le Morvan, même s'il y avait beaucoup de fermes, etc.
Alors, parce qu'il y avait des braconniers. Hein, il ne faut pas oublier les braconniers du Morvan. Moi, j'avoue, j'ai une certaine sympathie pour les braconniers.
Ah ouais?
Et les braconniers, ah oui, parce qu'il y en avait beaucoup dans le Morvan. Alors, ils étaient souvent en délicatesse avec les gardes-chasse. On sait qu'il y a eu quand même pas mal de soucis de ce point de vue-là. Hein. Il y avait un peu une guerre ouverte. Il y a eu d'ailleurs pas mal de crimes, hein, dans les archives. On s'aperçoit que souvent il y a eu des crimes de sang, ils se couraient après et souvent ça se terminait mal.
Mais pourquoi est-ce qu'ils vous sont sympathiques justement?
je ne sais pas.
Ah voilà, pas d'explication rationnelle.
Non, c'est pas rationnel du tout, mais je pense que les braconniers, ils aimaient bien la nature quand même, quelque part. Alors, le plus célèbre d'entre eux, je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent, c'est Moncharmont de Saint-Prix, qui a laissé vraiment trace dans le pays et je crois dans la France entière. Bon, alors c'est pas très bien parce qu'il avait tué des gendarmes. Alors ça, c'est quand même très moyen. Mais d'un autre côté, il aimait beaucoup la nature et je crois que les braconniers, d'une manière générale, n'étaient pas ce qu'on appelle, d'un terme un petit peu vulgaire, des viandards. C'est-à-dire qu'ils avaient à cœur quand même de respecter la faune, la flore. Et ils tuaient, mais pas, si vous voulez, ils avaient quand même un sens de la protection de l'environnement. Hein, ça, bien évidemment, le terme n'existait pas à l'époque, mais néanmoins, ils le faisaient. Et grâce aux braconniers, eh bien, les gens pouvaient manger des poissons. Ils mangeaient des poissons, des lacs et des étangs, parce qu'il y a quand même dans le Morvan, il y a des brochets, il y a des truites, des cendres, des perches. des gardons, des écrevisses, et tout ça, quand même, les gens s'en nourrissaient. On oublie de le dire. Hein. C'est quand même moins gras que le lard. Hein. Faut quand même le préciser.
C'était aussi une cuisine extrêmement créative, la cuisine du Morvan. C'est toujours, je parlais de la gelée de fleurs de pissenlit. On s'attache, oui. on travaille, vous l'avez dit avec les orties, les herbes et les fleurs sont quelque chose qu'on a toujours utilisé.
Alors, je pense et je crois qu'on a perdu un certain nombre d'herbes que les ménagères et plutôt, je pense, les enfants et les vieillards, quand ils pouvaient plus s'adonner aux travaux des champs qui étaient difficiles, allaient cueillir notamment sur les haies.
Oui.
Il y avait des herbes. Alors, vous savez, dans les almanachs et dans les vieux ouvrages qu'on peut encore trouver, notamment dans les brocantes, il y avait des herbes qui sont maintenant peu connues, que les gens pouvaient récolter à certains moments de l'année. Alors, quelquefois, ils les consommaient fraîches, quelquefois, ils les consommaient sèches. Alors, ils les consommaient soit en salade, soit dans un plat que moi, je trouve absolument merveilleux, qui est ce qu'on appelle le cake de verdure ou le gâteau de verdure. C'est-à-dire qu'ils faisaient un cake, en fait, et dedans, ils mettaient des herbes vertes. Alors, ça pouvait être de l'oseille, ça pouvait être...
Le pissenlit,
être
justement, on en parlait tout à l'heure.
Le pissenlit, voilà, ça pouvait être l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant les tétragones, ça pouvait être des orties. Alors, c'était soit des herbes uniques, soit ils les mélangeaient toutes. Et c'était, alors là, pour le coup, diététique. Hein. Franchement, plus diététique que ça, vous mourrez, hein,
bien sûr. Ouais. Albin, on pourrait en parler des heures de cette cuisine du Morvan, mais si on veut donner dans le traditionnel, un peu cliché, oui. Je vous l'avoue, je veux que vous nous parliez absolument pour terminer du flan des gardes-chasse. Parce qu'on a parlé des braconniers, il faut parler des gardes-chasse. Cette recette, mais elle m'impressionne face aux ingrédients. On peut dire que ça ressemble à un Christmas pudding anglais.
Alors, je vous parle du flan du garde-chasse à une condition, c'est
dites
que
moi,
si
c'est
vous
que je
en
goûte.
Faites, et, c'est que vous goûtiez, mais qu'après vous alliez courir. Hein.
Oui,
vous alliez courir après. Hein.
Oui, et que je m'achète une perche à selfie pour mon régime, comme on sait.
Voilà, c'est ça. Alors, bon, tout autant que vous êtes, après vous allez courir, vous me promettez. Hein, parce que je vous donne comme ça, une petite proportion. Pour 8 personnes, 12 crêpes épaisses, une pomme, une poire, 2 bananes, 30 grammes de beurre, 180 grammes de sucre en poudre, de l'eau, 50 g de raisin de Corinthe, 20 g d'orange confite, 6 noix hachées, 80 cl de lait, 5 œufs, du rhum et de la groseille.
Et bon voilà.
Un demi-pot. Voilà. Alors c'est très bon, hein. Mais alors là,
oui.
Je vous ai donné que les ingrédients, mais il faut en rajouter après. Hein.
On est tranquille. Parlons d'ingrédients dans quelques instants. Vous allez entendre l'ingrédient du défi frigo parce qu'il arrive dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Albin, merci. Je rappelle hein, qu'on peut trouver votre livre La cuisine du Morvan en vente sur le net. Vous êtes actuellement en pleine écriture sur l'enfance de Georges Sand dans le Berry. On aurait pu parler de Colette dans le Morvan et de la cuisine de Colette aussi. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, mais merci d'être passé par chez nous ce matin. Albin Novarino, potier, écrivaine et passionnée par le Morvan. On vous souhaite un très bon week-end.
Merci à vous et bon appétit.
Merci. Comptez sur
on
nous.
On va courir là.
Allez hop.
Allez vite courir.
RTL vous régale.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
C'est donc l'heure du défi frigo. La France attend ça et je comprends parce que ce défi frigo va opposer une nouvelle fois Louana Belmondo à Jean-Sébastien Petit de Manche. Nous allons prendre la direction de Haguenau dans le Bas-Rhin. On nous attend Virginie. Bonjour.
Oui, bonjour à vous. Bonjour
comment
à vous
ça,
tous.
Comment ça va Virginie?
Écoutez, ça va très bien, merci. Je suis ravie de vous entendre.
Plaisir partagé, on n'est pas loin de Strasbourg chez vous. Je vous présente comme la spécialiste du veau, comme quelqu'un qui ne rate jamais sa blanquette.
Oh là là, oui, bah, oui bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup cuisiner et qu'on aime tous à la maison. Voilà, donc d'ailleurs, je vais en faire une demain midi, vous voyez.
Tenez-nous au courant.
On arrive.
Sauf que c'est pas de la blanquette de veau que vous allez nous proposer aujourd'hui. L'ingrédient de votre frigo pour le défi, ce sera...
Alors, ce sera des foies de volaille.
Vous bougez pas, on arrive avec deux recettes originales dans quelques instants en direct sur RTL. Merci de passer votre début de week-end avec nous. RTL vous régale, il est 11h.
On régale la suite avec vous, les amis.
Mais qu'est-ce que c'est que cette météo? C'est pas possible. On va faire des plats d'automne à un moment donné, vous allez voir.
Oui,
foies de volaille, etc. Merci Yann Boucherie. Prochaines infos tout à l'heure à midi. Et dans un instant, le défi frigo.
RTL vous régale revient tout de suite.
Incroyable talent, Show Me Your Voice, son nouvel album Karma, toute l'actualité d'Hélène Segarra, c'est à 11h30. Elle est notre invitée pour refaire la télé. A tout de suite.
15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Et je vous le disais en démarrant cette émission d'RTL vous régale ce matin, une Romaine contre un Gaulois, bon ça voilà, c'est, on en est là dans le défi frigo aujourd'hui. Grâce à Virginie qui est à Haguenau, Virginie et ses foies de volaille, que vous cuisinez comment d'habitude ces foies de volaille, Virginie?
Alors en général, tout simplement, je les cuis à la poêle. Ensuite, je mets un petit peu éventuellement d'ail, de persil et je les déglace au vinaigre.
Sans autre forme de procès. D'accord, très
voilà,
bien.
Voilà, sur une bonne salade ou voilà, comme ça.
Et là, vous vous dites, j'appelle les experts pour deux recettes originales. Ils vont disposer d'une minute trente chacun et vous allez devoir choisir dans un instant. On commence avec, c'est vous qui me dites?
Oh, écoutez, honneur aux femmes.
Allez, t'as raison. Allez, on démarre avec Louana. D'accord, une minute trente. Top chrono.
Alors Virginie, moi je vous propose une recette qui vient de chez moi, parce qu'en fait à Nombris on fait ça. C'est une mousse de foie de volaille justement. Alors dans de l'huile d'olive avec une noisette de beurre, on va rajouter de l'oignon, de l'ail, du céleri, de la carotte bien hachée et on va faire suer le tout. Une fois que c'est sué, on rajoute de la sauge fraîche et les foies de volaille que vous aurez grossièrement coupées. Vous allez déglacer le tout avec du bon vin rouge et une fois qu'il a évaporé, vous fermez pas, hein, vous laissez bien évaporer. Vous mettez une louche de bouillon végétal maison si c'est possible. Vous allez, il faut que vous avez une texture un peu encore liquide. Vous allez mixer le tout et quand vous allez mixer, vous rajoutez un petit anchois et quelques câpres que vous aurez dessalées. Vous allez mixer de façon que ça soit un peu crémeux et vous allez servir ça en apéro avec des crudités ou alors avec du pain de campagne bien grillé. S'il vous en reste, le lendemain, vous mélangez votre mousse avec un œuf, de la chapelure, du parmesan. Vous mettez tout ça dans un moule à cake pendant 30 minutes au four et vous servez ça avec une belle salade. Et vous aurez d'un coup, avec une seule recette, vous faites deux plats.
Top! C'est pas mal, hein. Mousse de foie de volaille, super, ouais, un peu à l'italienne, c'est sympa. Je sais, je m'adresse à tous ceux qui écoutent RTL vous régale, et c'est très sympa d'être là tous les samedis matins. Je sais que quand on vous donne les recettes du défi frigo, c'est parfois en 1 minute 30 un peu rapide pour les noter. Je rappelle quand même à toute fin utile que le replay de l'émission est disponible sur l'application RTL. Vous pouvez évidemment réécouter tout ça à l'aise. Face à la mousse de foie de volaille de Louana, le défi n'est pas simple. Jean-Sébastien, des foies de volaille, qu'allez-vous en faire? 1 minute 30.
Écoutez, Virginie, moi je vais vous proposer de faire des brochettes de foies de volaille. Vous nous avez dit que vous les mettiez à la poêle. Vous allez faire une belle marinade un peu asiatique avec de la sauce soja, de la sauce teriyaki, du vinaigre mirin, de l'ail, du gingembre haché et de l'huile de sésame. Vous mettez vos foies de volaille sur des petites piques en bois avec des cranberry entre chaque morceau de foie de volaille et vous allez les laisser mariner 30 minutes. Vous les passez à la poêle ou à la plancha, vous arrosez avec la marinade et vous servez direct avec un peu de coriandre ciselé. Vous avez des brochettes teriyaki sur une salade. Vous allez voir, ça va pimper votre recette. Mais je vais surtout vous proposer un gâteau de foie de volaille parce que comme vous aurez un cook expert Magimix, vous allez mettre du persil, de l'ail, vos foies dénervées, l'huile d'olive. Vous allez obtenir une purée dans votre Magimix que vous allez cuisiner, que vous allez laisser cuire en 5 minutes. Vous ajoutez les jaunes d'œufs et pendant ce temps, vous montez les blancs d'œufs en neige. Vous incorporez le tout, vous salez, vous poivrez, vous mettez dans un moule à charlotte, 2 heures au four, au bain-marie, et vous avez un gâteau de foie de volaille de ouf, celui de Paul Bocuse, que vous arrosez avec un peu de coulis de tomate ou une râpée de truffe, si vous en avez l'occasion.
Eh ben rien que ça, eh ben voilà. Une mousse de foie de volaille face à un gâteau de foie de volaille de Paul Bocuse. Alors là,
et des brochettes, hein.
Et des brochettes, et des brochettes, rappelle, ouais, faut pas oublier. Ouais. Ça va pas être facile de choisir.
Non,
je vous
ça
le
va
dis
pas
franchement.
Être facile.
On a deux très belles recettes.
C'est pas facile, deux belles recettes. En plus, à chaque fois, deux recettes pour chacun. Donc là, je suis gâtée. Voilà. Les deux me font saliver, je ne sais pas. Ça va être compliqué parce que franchement, les deux me donnent très, très envie.
Vous nous expliquiez pourquoi vous allez choisir celle que vous choisissez.
Oui, c'est ça. Mais voilà, je vais vous dire franchement, je vais choisir celle de Jean-Sébastien. Parce
c'est gagné
en fait,
pour Jean-Sébastien.
Voilà, c'est le petit côté asiatique. Voilà, on aime beaucoup tout ce qui est un petit peu soja, teriyaki, etc. Et là, franchement, ça m'a fait fondre. le fait de les faire en brochette aussi, comme on arrive normalement sur l'été, même si c'est pas encore le cas dehors, mais enfin, pouvoir les faire en petite brochette, ça me tente vraiment beaucoup.
Et voilà. Vous allez voir, avec les canneberges, les cranberries que vous mettez entre chaque petit morceau, ça pimpe, ça donne un peu c'est acidulé, un peu d'acidité, c'est formidable.
Virginie ?
Oui ?
Vous voulez que je vous fasse craquer encore un peu plus ?
Ah oui.
On vous l'a dit, hein, c'est pas une surprise, mais quand même, vous savez que tout le monde rêve de cet objet. Si vous cuisinez à la maison, on a compris que c'était votre cas, c'est un partenaire exceptionnel, le cook expert de Magimix.
Alors écoutez, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vais vous dire franchement, ça me fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui, mon mari et moi, on fête nos 22 ans de mariage.
Oh, c'est beau.
Voilà, aujourd'hui même. Donc là, je vais pouvoir faire des super plats pour mon mari, mes enfants. Donc voilà,
vous
super
savez quoi
beau cadeau.
On s'était dit, on va lui offrir une bague. Mais non. Un cook expert, ce sera beaucoup mieux. On vous aide à réaliser des plats gourmands et sains, 100% fait maison. On vous fait confiance. Ce cook expert est simple à utiliser. Vous allez voir, vous allez réussir tous vos plats sans effort de l'entrée au dessert. C'est le robot cuiseur multifonction de Magimix. Il y a plus de 2000 recettes disponibles gratuitement sur l'appli et le site magimix.fr. On se fait un plaisir immense de vous l'offrir. Et j'ouvre une petite parenthèse, mais attendons la semaine prochaine, parce que soyez très attentifs. Dès le week-end prochain, dans RTL ou Régal, on va vous offrir un cadeau exceptionnel. Je crois que c'est la première fois qu'on va vous offrir une cuisine d'une valeur de 5000 euros.
Toute la cuisine.
C'est toute la cuisine. Hein. On va
Je rejoue la semaine prochaine alors.
Bah, n'hésitez pas.
Non, vous prenez ma place, je vais téléphoner moi.
Merci de nous avoir appelés. Vous avez vu que c'était pas en vain. Merci de nous être fidèles le samedi matin. Je sais que vous cuisinez avec nous en début de week-end.
Oui, mais tous les samedis je vous écoute et voilà, c'est un plaisir à chaque fois. Merci encore à vous tous. Désolée Louana.
Non, mais vous rigolez. Nous sommes là pour vous.
Je la ferai quand même. Voilà, j'essaierai des deux.
On vous embrasse, vous, la reine de la blanquette. Et à très bientôt. Très bon week-end.
À bientôt. Un bon week-end à vous aussi.
Au revoir. Allez, l'instinct, c'est aussi important en cuisine. Voici Florent Pagny sur RTL.
Je ne suis pas de ceux qui changent le monde, d'autres le font pour moi. D'une vie qui dure que quelques secondes, j'ai fait si peu de choix. Je n'ai suivi que des sirènes, de mes cinq sens le sixième. J'ai trouvé des hasards, quelques routes vers quelque part. Ce n'est que mon chemin, mais c'est de là que je viens. J'ai suivi mon instinct. Je n'ai rien d'un ange, j'ai rien de ces héros. Je vais où est ma chance. Sans pouvoir étrange, sans aile dans le dos. Pour ne pas tomber, j'avance. J'ai cherché l'amour loin devant. Je me suis trouvé en passant au détour d'un après. Elle était où je l'attendais. Ce n'était qu'un frisson, mais mon cœur était certain. J'ai suivi mon instinct. Tout bien mieux que les autres diront que c'est du vent. Je ne suis qu'un homme sans Dieu ni apôtre. Je gagne ou bien j'apprends. J'ai marché au son d'une voix. Un grand fil tendu sous mes pas. Sans croyance ni prière, j'ai touché un bout de lumière. Ce n'était qu'un instant. C'est mon destin, j'ai suivi mon âme.
disent bien plus que tu ne penses. C'est de là que tu viens, mais tu feras ton chemin si tu suis ton instinct.
L'instinct, premier extrait d'un nouvel album de Florent Pagny, entièrement produit et réalisé par Calogero. L'album sortira à l'automne, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Florent Pagny sur RTL. Dans un instant, on vous fait découvrir un musée consacré au peuple celtique. Jean-Sébastien, vous avez toujours votre moulin à poivre ?
Il l'a toujours avec lui.
Il l'a toujours avec lui,
oui,
très
oui.
bien.
Il est en train de le chercher, justement.
Très bien, bah, vous savez quoi ? Passe-moi le celt, dans un instant. C'est sur RTL, dans RTL vous régale.
RTL vous régale.
Eric, vous avez un bon karma, vous ?
Pas, apparemment, il y a du dossier. On va voir ça avec notre invité. Hein.
Lourd dossier.
Hélène Segarra, c'est le titre de son album, Karma. Elle est notre invitée à 11h30 pour refaire la télé. Jeanne est très inquiète.
Prêt ?
À tout de suite.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, on vous emmène au musée. Vous avez retrouvé votre moulin, vous ?
Hey.
Vous avez bien fait. Avec un poivre de qualité supérieure, évidemment.
C'est blanc.
Dites-moi, Bibracte, vous savez que c'est le nom d'une ancienne ville gauloise. Sur le Mont Beuvray, capitale des Éduins, vous en parliez tout à l'heure, c'est un des peuples les plus puissants de Gaule. Et depuis 96, eh ben, c'est un musée. On va vous emmener ce matin découvrir la vie quotidienne. Absolument, de ses habitants. Il y a des objets issus des fouilles, de maquettes, de reconstitution, etc. Il y a pas mal d'artisanat. Vous allez voir, c'est des choses absolument incroyables. Laïla Ayash est la conservatrice de ce musée. Bonjour Laïla.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Ce musée, c'est une aventure qui a vu le jour grâce à François Mitterrand, c'est bien de s'en rappeler. Il était passionné par l'histoire de ce lieu et il aurait même voulu, à une époque d'ailleurs, être enterré sur le Mont Beuvray. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou si l'histoire est authentique.
Non, je confirme qu'elle est authentique. Finalement, pour diverses raisons, le projet ne s'est pas concrétisé, mais effectivement, c'est révélateur d'un grand attachement que Mitterrand portait à ce lieu, un lieu qu'il fréquentait très très fréquemment dans l'intimité avec des groupes de ses intimes et qu'il a pour lequel en fait il a vraiment soutenu le projet scientifique qui a redémarré dans les années 80 avec le retour des archéologues et ensuite le développement de ce site, la création de toute l'infrastructure qui a permis à la fouille de se développer et au musée d'être créé en 95-96.
C'est quelque part, c'est le grand travail, j'allais dire, c'est dans les grands travaux de François Mitterrand, vous êtes presque le moins connu, hein, mais pas le
tout
moins loin d'être le moins intéressant.
Oui, c'est effectivement la construction du musée et du centre archéologique européen, qui est la base arrière des opérations de fouilles, est l'un des grands travaux de l'État qui a été réalisé en province et dont on a peut-être moins connaissance. Mais cette inscription dans les grands travaux de l'État a permis la réalisation d'un programme architectural de grande qualité que l'on doit à l'architecte Pierre-Louis Falotti, qui a été d'ailleurs récompensé pour ce travail dès 96 en recevant un prix d'architecture.
Laïla, expliquez-nous, parce que ce musée, c'est un musée familial, on va le dire comme ça, c'est un musée pour tous. Entre l'intérieur et l'extérieur, c'est un parcours unique. On peut s'imaginer en aventurier archéologue, c'est un peu ça l'idée ?
Oui, c'est vraiment le fil conducteur à la fois du musée et des propositions que l'on fait au public pour la découverte du site archéologique. Le musée est vraiment implanté sur les pentes du Mont Beuvray et le sommet du Mont Beuvray est recouvert par les vestiges de cette grande ville gauloise qui s'appelle Bibracte et qui couvre presque 150 hectares. Donc un domaine forestier d'une part où les familles peuvent profiter de la nature, de paysages assez époustouflants, hein, ceux du Morvan, et aller plus loin dans la découverte du site archéologique en visitant le musée avec une présentation qui est très variée. On a évidemment des objets archéologiques issus des fouilles, mais aussi beaucoup de maquettes, beaucoup d'images, de photographies, de dessins, de restitutions qui permettent de visualiser comment la ville se développait il y a 2000 ans, ce qu'on y faisait et comment les archéologues travaillent et ce qu'ils comprennent des vestiges qu'ils trouvent enfouis.
Voilà, c'est en projection numérique, c'est un musée, vraiment un musée moderne.
Tout à fait. On a, au cours d'un vaste chantier de rénovation qui a déjà maintenant une dizaine d'années, renforcé la présence du numérique, qui est quand même un outil vraiment, vraiment utile et tout à fait pertinent pour donner à voir ce que le terrain ne permet plus de voir. Et c'est une attention que l'on a encore, puisque ces projets numériques sont toujours d'actualité. On vient de créer de nouveaux outils, d'en rénover certains au sein du musée, et puis de développer une application pour découvrir le site archéologique lui-même, qui s'appelle La Boussole, et qui est accessible gratuitement et qui permet d'avoir des informations sur les lieux au fur et à mesure de la promenade, et puis de visualiser certains vestiges en trois dimensions et à 360 degrés.
C'est un endroit qui me fascine. J'adore Bibracte, surtout parce que on parle d'une civilisation qui a failli se perdre, parce que les écrits gaulois étaient extrêmement rares. C'est une époque où les Gaulois n'écrivaient pas, donc les sources sont forcément indirectes. Et en fait, on connaît des Gaulois essentiellement ce qu'en ont dit les Romains, c'est-à-dire les vainqueurs. Mais ont-ils dit la vérité, et ont rétabli la vérité justement à Bibracte?
Voilà, disons qu'on s'attache à montrer ce que l'archéologie permet de comprendre de cette période, et on se rend compte que le portrait qui se dessine au fil des études archéologiques est un tout petit peu différent, effectivement, de ce que les textes antiques ont conservé, ou en tout cas nous livrent. Il faut avoir en tête que ce que les auteurs antiques ont, en particulier les Romains, ont livré comme témoignages sur les Gaulois, sont des témoignages de seconde main. Ce sont généralement des choses dont ils ont entendu parler, mais qui n'ont pas forcément vu eux-mêmes. Et quand bien même ils les auraient observés eux-mêmes, généralement, ils n'ont pas bien compris ce qu'ils ont vu. Ils ont un peu transposé leur propre culture sur une culture très différente.
Et là, c'est intéressant ce que vous dites, c'est passionnant, parce que si on devait tordre le cou, justement, une idée reçue à propos des Gaulois, vous diriez quoi pour rétablir cette vérité?
Le plus grand cliché que l'on a tous en tête quand on pense aux Gaulois, c'est la consommation de sangliers, par exemple. Le fait que les Gaulois auraient consommé des sangliers de manière extrêmement fréquente et quotidienne. Et l'archéologie montre que c'est pas du tout le cas. À l'époque de Bibracte, les Gaulois sont d'abord des agriculteurs qui consomment les produits de leur agriculture, donc principalement des bêtes d'élevage, quasiment les mêmes que l'on consomme aujourd'hui, même si leur morphologie était un petit peu différente. Le sanglier, il est très très peu chassé, et dans les fouilles, on le sait parce qu'on étudie les ossements animaux qu'on découvre dans les dépotoirs, dans les poubelles que l'on découvre sur les sites archéologiques, et la place des ossements de sanglier est extrêmement marginale. C'est quelques 0,1% de cette... Par contre, c'est indéniable que le sanglier est un élément symbolique très important dans la culture gauloise quand même. On en retrouve des représentations figurées, des petites figurines qui montrent qu'il avait... qui symbolisait en fait la puissance guerrière et qu'il était respecté à ce titre.
Mais pas de traces de potions magiques, hein, rassurez-nous, tout va bien.
Non, pas encore.
Ni de menhir, faut le dire aussi.
Les menhirs, c'est un autre grand cliché.
C'était une ville, Bibracte était une ville absolument gigantesque pour l'époque. Donc le champ de fouilles est à l'égal de ce qu'était la ville.
Oui, tout à fait. Et donc, le Mont-de-Vray, pour vous donner une idée, c'est presque 1000 hectares de forêt. Et la ville de Bibracte, on peut même la qualifier de capitale, hein, puisque c'est vraiment la ville la plus importante, la plus riche, la plus belle, pour reprendre les termes de César, du peuple des Éduins, qui occupait un territoire qui est grosso modo celui de la Bourgogne. Et donc, cette capitale, son apogée, rassemblait 5 à 10 000 habitants. Donc pour l'époque, et même pour aujourd'hui, c'est vraiment pas négligeable. Cette population était installée dans une ville ceinturée par un rempart de 5 km de long et qui délimitait une surface d'environ 150 hectares.
Leïla, l'excellente nouvelle pour terminer, c'est que depuis mercredi, le public est de retour chez vous. Ça fait du bien, hein ?
Oui. On est extrêmement heureux, l'équipe est vraiment ravie et pleine d'énergie pour accueillir ce public de nouveau de retour qu'on attendait depuis un petit moment déjà.
Bibracte sur le Mont Beuvray. Merci Laïla Aya, je rappelle que vous êtes la conservatrice de ce fantastique musée.
Ouais. Allez visiter cet endroit.
Et les alentours.
Absolument.
Et la forêt pour
c'est
les arbres.
Fabuleux.
Oui, absolument. Merci Laïla, bon week-end à vous.
Merci à vous, bon week-end.
Merci.
Au revoir.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Magnifique début de week-end dans le Morvan. On a passé un très bon moment avec vous. C'est un vrai bonheur. Jean-Sébastien Louana, on se retrouve la semaine prochaine direction Metz. Oui. Et puisque nous étions dans le Morvan, rappelez-vous que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. C'est pas moi qui l'ai dit.
Oh, comment il nous casse ça là.
Très bonne journée. Profitez-en. On refait la télé. Jade et Eric Dussard, dans un instant, reçoivent la délicieuse Hélène Segarra. On vous embrasse. À samedi prochain.
Au revoir.